économie.
Au sommaire, clôture hier jeudi à Bougna de l'atelier des sensibilisations sur les mécanismes de certification des minerais dans la région de Grand Lac. À l'issue des travaux, les participants ont relevé que 60 kg d'or quittent frauduleusement la province de l'Ituri tous les 3 mois à destination du marché de l'Ouganda. Et puis les organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles appellent le Parlement à traiter le projet de loi portant sur les codes miniers avec toute priorité au cours de cette session de mars. Une mouche blanche attaque le riz, le manioc et la banane plantain dans les territoires de Kailo et Pangui au Maniema. Cette information livrée par le réseau de sécurité alimentaire dans la province est confirmée par le gouvernement provincial. Bonsoir. Commençons par l'Ituri, où 60 kg d'or quittent frauduleusement cette province tous les 3 mois à destination du marché de l'Ouganda voisin, ce qui représente la valeur de 2 227 800 dollars américains au prix de Bougna. Statistique publiée hier jeudi à Bougna par le Centre d'évaluation, d'expertise et des certifications de matières précieuses et semi-précieuses, CSE, à la clôture d'un atelier de sensibilisation sur le mécanisme de certification de minerais dans la région de Grand Lac. Explication de Martial Kizamamou.
La province de l'Ituri compte 150 000 exploitants artisanaux dès lors. Ils sont dans les 813 sites dans les territoires de Mambasa, Irumu et Ndjougou. Selon le CIC, les minerais qu'ils exploitent quittent les pays sans respecter la filière normale de la traçabilité. Eric Yamba, son responsable, déclare que cette fraude constitue un important manque à gagner pour les trésors publics. Il cite par exemple la ville de Boutembo qui constitue aussi la porte des sorties de minerais de l'Ituri.
La quantité exacte qui sort de l'Ituri frauduleusement, ça peut aller dans les 50 à 60 kg par trimestre, qui n'entre pas dans la traçabilité. Mais ce qui nous échappe, donc ce qui est de la contrebande de la fraude, c'est ça la moyenne qu'on peut estimer. L'or, c'est une matière très difficile à surveiller parce que détenir l'or, avec une petite quantité, vous pouvez glisser ça dans une poche. C'est difficile de contrôler ça, même aux services de sécurité qui sont dans nos postes frontaliers de province, ça leur échappe parfois. Donc, ce qui fait que ça peut être facilement transporté dans une poche, dans un véhicule, par moto, et ça prend une destination inconnue. Donc, c'est difficile pour faire ça, mais nous avons pris quand même de mesures pour lutter contre la fraude parce qu'il y a une commission d'élite provinciale qui existe.
De son côté, la division de mines justifie cette situation par l'absence des comptoirs d'achat d'or agréés à Ituri qui n'en compte qu'un seul. Son chef Chabani Kimariki affirme que son service s'engage à mettre fin à ces circuits frauduleux.
Parce que les comptoirs arrivent à Ituri, c'est vrai. Chaque année, au moins, on a un comptoir qui arrive. Une année après, il disparaît, il arrive, il disparaît. Donc, les comptoirs se succèdent à Ituri. Je pense que au niveau de la division des mines, nous avons trouvé une politique de proximité. Donc, c'est pour dire que nous avons déployé nos inspecteurs dans tous les sites miniers d'exploitation artisanale et nous avons déployé aussi nos inspecteurs comme contrôleurs dans tous les centres de négoce pour veiller sur ces circuits-là, des sites miniers jusqu'au comptoir agréé. Donc, nous voulons que la traçabilité soit vraiment mise à place pour que la fraude diminue.
Pour combattre cette fraude, les chefs de division de mines appellent l'implication des autorités provinciales en vue de mettre en place des mécanismes au niveau des frontières avec l'Ouganda, principale destination de ces minerais. Chabani Kimariki.
Ce qui concerne les tonnes d'or qui quittent les pays, la fraude par exemple, l'or d'exportation, oui c'est une exportation qui est illégale. Là je demanderai à ce que le gouvernement provincial puisse nous aider à mettre en place un mécanisme au niveau des frontières qui peuvent barricader la route à ces contrebandistes qui cherchent toujours à échapper les contrôles de l'État et ramener les produits miniers à fraude.
Le secrétaire de la coopérative des négociants d'or de l'Ituri, Konori, explique que cette fuite des minerais par les faibles prix du gramme sur le marché local par rapport au marché extérieur. Edmond Cécélé cite aussi des tracasseries administratives dont sont victimes les opérateurs miniers.
Les doléances des négociants, chaque fois qu'ils arrivent, ils disent qu'au comptoir, ils vendent presque à perte. Aussi longtemps que cette situation des mers, on sera loin de canaliser l'or dans les circuits officiels de commercialisation. Il faut, pour respecter la traçabilité, là, il faudrait en tout cas qu'il y ait baisse, qu'il y ait réduction des taxes. À ce moment-là, les négociants vont se retrouver.
Le projet Partenariat Afrique-Canada qui a organisé ses travaux pendant 3 jours appelle les exploitants à respecter la traçabilité des minerais pour contribuer au développement de la jeune province de Litourie. Son coordonnateur national reste optimiste quant aux résultats attendus sur terrain après cette formation de sensibilisation. Victor Kangela.
Et on est sûr qu'après cette formation, les choses vont se passer différemment. Donc on croit que la contrebande va diminuer et aussi les actes qui seront posés par les agents de l'État seront de plus en plus des actes responsables et respectueux des directives et nationales sur le plan légal, régional, mais aussi international, notamment les guides de diligence de l'OCDE dans cette jeune province qui a tant besoin de voir ces phénomènes endigués.
L'organisation de ces travaux a été financée par le gouvernement du Canada et des États-Unis d'Amérique. Bounia, Martial. Kisabia Mungu, Écho d'économie.
Je le disais également au sommaire. Après leur mémorandum au Premier ministre Augustin Matata Ponyo, les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs de ressources naturelles s'adressent aux parlementaires. Dans une déclaration faite ce jour, elles disent saluer le fait que le Premier ministre ait pesé de son poids pour que la question de la révision du code minier soit inscrite au calendrier de la session de mars. Aux parlementaires, ces ONG disent ceci.
Les organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles en République démocratique du Congo saluent avec satisfaction l'inscription du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier au calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2016 par l'Assemblée nationale. Dans le souci de voir ce processus arriver à terme, les organisations de la société civile, premièrement, invitent le bureau de l'Assemblée nationale à programmer dans les meilleurs délais la présentation officielle du dit projet de loi par le gouvernement à la plénière. Segundo, exhorte les élus du peuple à traiter ce projet de loi en toute priorité et à accorder une attention particulière aux questions de développement durable et à la fiscalité. L'objectif reste de produire une loi qui aura un impact sur la vie sociale de la population congolaise en particulier et sur l'économie nationale en général. Tertio formule le vœu de voir les débats relatifs à la révision du code minier se dérouler en toute transparence et l'adoption de celui-ci intervenir de préférence avant la fin de la session en cours. En conclusion, les organisations de la société civile mettent le Parlement et les élus du peuple devant leurs responsabilités patriotiques pour doter le pays d'une nouvelle loi minière qui prend en compte les intérêts supérieurs de la nation. Faite à Kinshasa le 25 mars 2016 pour les organisations de la société civile, CENADEP, OCEAN, CEPAS, CERN-5O, AZAP, LICOCO, SAROA, qui sont membres du comité de coordination des travaux de la société civile pour la révision du code minier.
C'était la Harry Mouya de la commission épiscopale pour les ressources naturelles qui s'exprimait au micro de Daniel Tamizoni.
Écho d'économie.
Direction province du Maniema, une mouche blanche attaque les champs de riz, de manioc, de bananes plantains dans le territoire de Kailo et de Pangui. Cette alerte émane du réseau de sécurité alimentaire de cette province et confirmée par l'exécutif provincial. Selon le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, cet insecte ravageur vit dans les endroits à forte humidité, d'où il s'attaque aux cultures vivrières. Pierre Andala Kati Moulingwa revient d'une mission d'évaluation dans la région. Il est au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
Ce qui est dangereux, un couple peut donner 200 petits. Or, vous verrez, un pied de riz seul est attaqué par 500 couples. Vous allez multiplier ça par 200, ça vous fait 10 000 mouches blanches. Dès que la plante est attaquée au niveau des plantures, la croissance est automatiquement arrêtée. Il y a eu tout d'abord le message du gouverneur qui prévient la population de signaler tout cas de cultures vivrières et autres par la mouche blanche dans une zone déterminée, dans les champs ravagés, couper tous les résidus des récoltes et procéder à leur incinération sur place. Et puis, de ne jamais utiliser comme semences les récoltes provenant des champs attaqués. La situation est extrêmement difficile, d'où il faudra l'action concertée de tous les partenaires et du gouvernement de disponibiliser rapidement des semences au niveau des populations, à ne pas utiliser comme semences les récoltes qui proviennent de ces champs. Et puis, ne pas installer un nouveau champ à proximité des terrains ayant abrité les champs attaqués. Semer à la période favorable au milieu, ni trop tôt, ni trop tard, suivant les conseils agricoles.
Rappelons qu'une maladie non encore identifiée décime également les poissons dans les cours d'eau et étangs piscicoles. Elle se manifeste par des plaies puantes sur les poissons qui y en meurent. Les cas sont signalés à Lubumbashi, Kindu, dans le sud, Ubangi et à l'équateur. Éco d'économie, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.